Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le podcast Histoire naturelle. Dans cet épisode, enregistré au tout début de l'année 2021, j'ai souhaité donner la parole à des enseignants et des professeurs qui transmettent leur passion à des enfants. Ce métier de passeur et de passeuse, de vulgarisation, n'est pas quelque chose d'inné, c'est un travail de fond où les connaissances et les savoirs sont sans cesse réactualisés par l'actualité, la vie de la recherche, les nouvelles données sur la nature, l'écologie et les sciences. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai donné la parole à Carole qui nous livre un précieux témoignage sur ce que c'est que de proposer des livres aux enfants pour les sensibiliser à l'environnement et à la nature. Cela pourra par ailleurs vous donner des idées de cadeaux de Noël pour les enfants de votre entourage. Vous retrouverez la liste des livres dans la barre d'infos du podcast ainsi que sur le blog. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Carole.
Bonjour.
Alors tu es blogueuse et ton blog c'est unenfantquilit.com.fr.
C'est exact,
.com. Et tu es donc professeure des écoles en maternelle.
Oui.
Et tu vas nous parler aujourd'hui d'ouvrages,
de livres,
d'albums qui parlent de la nature, de notre rapport à la nature, mais pour les enfants.
Exactement.
Donc je te laisse présenter les ouvrages.
Alors le premier livre dont je voulais te parler est un album qui s'appelle Forêt des frères. C'est un album qui a été écrit par Yukiko Noritake, qui est paru chez Actes Sud Junior en 2020. C'est un album assez récent. Comme son nom l'indique, ça se passe à l'orée de la forêt. Et les deux personnages principaux sont deux frères. Tous les deux rencontrent une femme. L'un rencontre une femme, l'autre rencontre une femme aussi. Et chacun à leur manière, ces deux jeunes hommes vont construire leur avenir avec leur femme dans la forêt, le long de l'eau. L'un choisit de vivre au cœur de la nature, la préservant au maximum, et l'autre s'approprie les lieux de manière très différente, en construisant une grande maison, des routes. On peut dire qu'il s'approprie les lieux pleinement aussi, mais d'une manière tout à fait différente. En fait, chacun fait des choix de vie qui ne sont pas forcément ceux de l'autre. Nous, lecteurs, on est là vraiment en tant qu'observateurs. Puisque sur chaque double page, en vis-à-vis, on a les deux visions du monde et les deux visions des frères qui se font face. Donc le point de départ est le même. Une forêt, un frère d'un côté, une forêt, un frère de l'autre. Et puis au fur et à mesure des pages, on voit leur choix de vie se dessiner. Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de jugement qui est porté. Tout est présenté comme un constat. On est vraiment, ce que je disais, observateur. Et c'est au lecteur de se faire son propre avis. Forêt des frères, c'est vraiment partie de ces livres qui amènent à réfléchir par soi-même. Chacun peut y puiser les éléments de sa réflexion. Et en fait, dès 4-5 ans, dès le plus jeune âge, les enfants ils sont capables de porter un regard sur le monde qui les entoure et sur la nature, de s'interroger. Là, en l'occurrence, peut-être qu'ils trouveront que certains choix faits par le premier frère de préservation sont intéressants. Et puis peut-être qu'ils verront de l'autre côté celui qui construit la grande maison, la piscine. Ils y trouveront peut-être aussi un intérêt. Après, à eux d'aller puiser les éléments de la réflexion. Et puis là, le dialogue avec l'adulte est aussi important. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela? Est-ce que tu crois que ça c'est mieux que cette autre chose? C'est vraiment le dialogue qui est intéressant. Et la force de ce livre réside aussi dans le fait qu'il nous amène à réfléchir, mais presque sans mots. Il n'y a quasiment pas de texte. Il y a bien quelques phrases en bas de page, mais l'essentiel, il n'est pas là. Le cœur du livre, c'est vraiment les illustrations. Le livre est assez grand, c'est un grand format. Donc, on peut vraiment se plonger dedans, regarder, observer, contempler. Les dessins sont magnifiques, donc ça met vraiment... Enfin, c'est une belle réalisation. Et le point aussi important de ces illustrations, c'est que c'est un cadrage aérien, comme si on était dans un avion ou dans un drone et qu'on observait les deux frères dans leur vie et dans leur choix. C'est vraiment tout en subtilité. Et puis pour sensibiliser les enfants aux questions, toutes les questions liées à la nature, finalement, on pourrait imaginer que les documentaires sont plus propices, ou des livres avec des photographies, enfin quelque chose qui fait vrai, comme on dirait. Mais parfois, le biais de la fiction et de la narration permet de générer des émotions, et c'est le cas de ce livre, qui permettent bien davantage. Donc voilà, moi j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce livre. Le deuxième livre ?
Oui.
Alors, le deuxième livre, alors là, on est sur tout à fait autre chose. C'est un livre documentaire, cette fois-ci, mais qui est lui aussi, dans sa présentation, assez original. Ça s'appelle « Transparence, radiographie de la nature ». C'est un livre qui a été publié en 2020 aussi par Albin Michel Jeunesse. En fait, dans ce documentaire, sont compilés un grand nombre de radiographies qui ont été réalisées par Harry Van Triet. Alors, au-delà du côté esthétique, il a souhaité passer au rayon X un grand nombre d'espèces animales pour en dégager des caractéristiques qui ne sont pas forcément évidentes au premier coup d'œil. Donc vous allez tout de suite comprendre l'originalité, parce que les livres de radiographie, je ne suis pas sûre que vous en ayez beaucoup rencontré. Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup rencontré, en tout cas. Et ce point de vue est vraiment intéressant, parce qu'il permet de porter un regard nouveau. Par exemple, quand on est devant la chouette effraie, au premier coup d'œil, elle paraît assez majestueuse, mais une fois déplumée en radiographie, on n'a plus l'impression de voir le même animal. Si on parle du caméléon, le caméléon, on le connaît pour ses couleurs, mais en radiographie, qu'est-ce que ça va donner? Ou alors, est-ce qu'on aurait pensé, par exemple, que le faisan aurait, sur une radiographie, l'allure d'une autruche miniature, une fois dénudée, finalement? Bah, je crois pas. Donc vraiment, ça nous permet d'aller plus loin que nos premières approches. Après, il y a pas seulement les radiographies, il y a toute une mise en mot aussi qui a été faite par Jean-Paul Fulton, qui est assez essentielle, puisque finalement, il nous sert de guide. Il nous dit où regarder sur les radiographies, il amorce quelques comparaisons, il nous permet finalement d'élargir nos connaissances. Et puis, finalement, son regard et le nôtre nous permet de faire des allers-retours entre le texte et l'image, et ce qui aide forcément à la compréhension. Le texte, il est précis, mais la narration est accessible, ce qui est assez important quand même, puisque ce sont des livres qui s'adressent aux enfants. Dans les documentaires, il faut, même si on aborde un côté scientifique, il faut éviter de les perdre. Et là, l'auteur joue vraiment sur... Il rentre finalement comme dans un dialogue avec le lecteur, il rend le texte vivant, il y a tout un... Enfin, il n'y a pas de côté rébarbatif. C'est assez intéressant. Et puis, concernant les radiographies, la personne qui donc s'est occupée des illustrations, les amis, les radiographies des animaux sont mises en scène dans des éléments naturels, donc on retrouve aussi des décors finalement. Et puis certains points sont colorisés, ça fait comme une petite mise en scène, ça raconte une petite histoire. Après, le seul bémol que moi j'apporterai à ce livre, c'est que l'animal, il n'est pas représenté sous sa forme commune, il est représenté uniquement en radiographie. Donc, ça sous-entend que l'enfant lecteur connaisse déjà bien les animaux présentés. Voilà. Mais un livre très, finalement très intéressant, très original dans sa forme. Voilà.
Et est-ce qu'il y a une différence entre justement ces deux modes de représentation de la nature, un mode plutôt fictionnel et un mode plutôt scientifique ?
Oui, forcément, c'est différent parce que l'approche, elle n'est pas la même, et puis parce que finalement, les enfants n'attendent pas forcément la même chose. Quand ils ouvrent un documentaire, c'est vraiment dans l'idée d'en apprendre plus. Quand ils ouvrent un livre de fiction, un album, c'est pas forcément la première chose qu'ils recherchent. La première chose, c'est qu'ils veulent une histoire. Et finalement, j'ai envie de dire, ils se laissent cueillir, parce que souvent, les illustrations, ce qu'ils leur ont raconté, leur permet malgré tout... de s'émerveiller devant la nature, même si c'est d'une manière différente. Les illustrations ont forcément un rôle extrêmement important, même si elles sont pas elles sont moins réalistes, forcément, c'est pas une photographie, enfin voilà. Mais non, je pense que ouais, c'est tout à fait tout aussi important. Et puis on parlait de réalisme, il y a des auteurs et des illustrateurs qui s'intéressent bien plus à cela, notamment je pense à Gerda Müller qui a des illustrations énormément réalistes, c'est presque des illustrations naturalistes, qui a le souci du détail, qui vraiment a une visée pédagogique pour que les enfants en apprennent plus. Et pourtant elle raconte une histoire, mais ce volet scientifique est quand même présent.
Et est-ce que tu, dans ta pratique de professeur des écoles, tu as déjà raconté ce type d'histoire, montré ces livres aux enfants, et quelles étaient leurs réactions ?
Les enfants, ils sont très sensibles aux livres qui touchent la nature. Surtout, on va dire, dans notre région, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui les entoure. Donc, quand ils rencontrent dans une histoire, par exemple, une petite mésange qu'ils ont déjà aperçue dans leur jardin, forcément, ça attire leur œil tout de suite et ils ont envie d'en découvrir plus. De même sur les documentaires. Et finalement, dans les documentaires, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont à la fois sensibles aux choses qui leur sont proches et qu'ils connaissent déjà, pour en savoir plus, et aux choses très lointaines. Enfin, les enfants, tous les intéressent finalement. Ils ont une grande curiosité. Et c'est peut-être pour ça aussi que tout ce qui est lié à la nature les intéresse. Voilà. Ça nourrit leur besoin de curiosité.
Et c'est vrai que les livres, ça reste quand même de l'ordre de l'imaginaire et du théorique, mais est-ce que tu penses que qui s'est suivi d'une mise en pratique pour eux dans la vie de tous les jours ?
Notamment au niveau conscience écologique, tu veux dire ?
Oui, voilà.
Oui. Oui, parce que j'ai envie de dire, on a envie de protéger que ce qu'on connaît bien finalement. Et de passer par des livres comme ça, qui les sensibilisent, oui, c'est assez intéressant. Et puis justement, au niveau écologie, il y a beaucoup de choses qui sont sorties récemment. Finalement, littérature de jeunesse en ce moment, quand on parle nature, on pense tout de suite écologie. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties pour les grands, mais aussi qui sont sorties pour les plus petits. Et nous, mettre en place des choses, des gestes écologiques, ça peut nous paraître, ça peut paraître à certains un peu compliqué parce qu'avant on fonctionnait autrement. Mais eux, c'est la nouveauté, donc ils y vont droit dedans. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense notamment à un livre pour les petits là, qui est sorti, c'est pareil, en 2020, qui s'appelle SOS Terre, qui joue sur le côté ludique parce que c'est un livre qui a des transparents et des calques, et ces calques permettent, quand on les bouge, de passer à une action qui n'est pas vraiment écologique, à une autre qui l'est beaucoup plus. On a par exemple un calque avec des bouteilles de plastique qui, si on le bouge d'un côté, se retrouve dans la mer, ingurgité par des poissons, et puis quand on le bouge de l'autre côté, la bouteille de plastique se retrouve dans la poubelle. Ça, c'est des petites gestes simples, des petites choses que si les enfants les découvrent dans les livres, ils mettront en pratique hyper facilement.
Oui, ce sont des gestes simples.
Des gestes simples, oui, bien sûr, au départ. Bon.
Et ça passe donc, comme tu dis, par ce qu'on connaît, par notre, la connaissance de notre environnement, de notre nature. Donc il y a des livres dont tu me parlais qui parlent plus de ça, de ce qui nous entoure dans la nature.
Je pense notamment aux éditions du Ricochet. Une collection qui s'appelle Où est la science ? Et alors là, on est dans du documentaire pour les enfants, c'est vraiment leur credo. Ils ont vraiment leur but, c'est vraiment de faire découvrir aux enfants le monde qui nous entoure. Mais ils le font là encore de manière assez ludique, avec un texte dynamique, avec des petites expressions. Il y a des petites choses, par exemple, les voici, les voilà, les petites pousses. enfin des choses, c'est très rythmé, hop, oui. Hop là, la petite plante grimpe, et ils arrivaient à amener comme ça les enfants dans un documentaire de façon presque détournée, et au final ils ont quand même appris énormément de choses quand ils ont tourné toutes les pages. Ils ont sorti des livres notamment là, sur la croissance des plantes, ils ont sorti des livres sur les papillons. Et ce qui est assez intéressant aussi dans leur collection, c'est que il y a tout ce texte au départ qui est assez ludique, assez simple. Et puis il y a un complément après, enfin un livre qui est beaucoup plus poussé pour les enfants plus grands ou pour ceux qui voudraient en savoir plus. Mais oui, le documentaire pour les petits existe, même pour les tout petits. Flammarion notamment a sorti des livres cartonnés. Je pense au documentaire sorti par Adeline Ruel l'année dernière sur les oiseaux de mon jardin, mais elle va sortir aussi sur les plantes. On est sur du livre cartonné avec des petits flaps à ouvrir, à fermer. C'est ludique pour les enfants, mais malgré tout, l'information, elle est là. On en apprend plus sur la mésange, sur ce qu'elle mange, comment elle niche, de même pour la tourterelle, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour ce côté documentaire pour les tout-petits, parce que ça n'existait pas beaucoup. Mmh. Et finalement, ils sont quand même capables de recevoir les informations qui sont données dans ce genre de livre. Mmh. Même si ça reste voilà, minimaliste par rapport à un documentaire qui s'adresse aux plus grands. Mais je pense qu'il faut en commencer par là, avec les tout-petits. Mmh. Donc après, en grandissant, ils sont amenés finalement à des choses plus précises.
Donc, au sujet de la petite taupe.
Alors, la petite taupe, c'est un livre très drôle. Mmh. C'est un album, hein. C'est une histoire. Mais finalement, c'est presque un cours de science naturelle, malgré tout. La petite taupe, chaque soir, elle sort de son trou. Et voilà, pas que ce soir-là, elle a une chose longue, ronde et marron qui lui tombe sur la tête. Elle trouve ça dégoûtant, puisque effectivement, c'est un gros caca. Et se met à la recherche du coupable qui a fait ça. Donc, de page en page, coiffée de son étrange couvre-chef, on va dire, elle va interroger tous les animaux des environs pour savoir si ce sont bien eux ou pas qui ont fait sur sa tête. Alors chacun se justifie à sa manière, prouvant qu'il n'est pas le coupable recherché, en faisant une petite démonstration de ses crottes sous le nez de la taupe. Alors c'est drôle, hein, et puis forcément les enfants, de 3 ans, quand on parle pipi caca, ça fait rire. Donc, voilà. Mais finalement, c'est assez science naturelle, j'ai envie de dire, comme je disais tout à l'heure, puisque les crottes sont assez bien représentées, on va dire. Et puis, il y a tout le vocabulaire qui est lié, notamment la bouse, le crottin, etc. Forcément, les enfants sont morts de rire. Ils n'ont pas l'impression d'apprendre des choses et pourtant, ils en apprennent. Bon, l'histoire se finit bien malgré tout. La taupe finit par trouver le coupable qui a fait sur sa tête. Et grâce à deux mouches, forcément, les spécialistes de la question. Et les enfants adorent. Et ils n'ont pas eu l'impression... Ils ont eu l'impression de rigoler du début à la fin. Ils n'ont pas eu l'impression d'apprendre des choses. Mais finalement, ils ont vu que la crotte du lapin ne ressemblait pas à celle du cheval ni même à celle de l'oiseau, qu'elle portait pas le même nom. J'ai envie de dire, c'est presque un livre qu'il faut prolonger par une visite à la ferme et le cours est complet. Et puis, c'est voilà, sur un autre sujet, c'est aussi un livre qui est assez intéressant au moment où les enfants ils apprennent la propreté, enfin, ça dédramatise un peu la chose, ça dédramatise au niveau voilà, propreté, et puis finalement, ça enlève un côté, le parler de crotte, etc., on n'a pas l'impression de faire des sciences finalement, on en fait quand même un peu. Donc voilà, ce livre c'est vraiment un classique, un incontournable, qui est vraiment très drôle, avec les enfants, on peut les aider 18 mois, et c'est un livre qui marche parce que Milan l'a édité pour la première fois en 1989, donc il a quand même un petit paquet d'années, et il fonctionne toujours très très bien auprès des enfants.
Ah oui, il a été bien réédité alors.
Oui, bien réédité. théâtral en mettant l'intonation, etc. Et ces livres-là, un peu, où on joue le personnage de théâtre en faisant des grosses voix, etc., les gens aiment toujours.
C'est
on redemande.
Et après...
Parce que puis parce que aussi, je l'ai pas dit, mais dans ce livre, quand les animaux font leur petite crotte, on a droit aux petites onomatopées, les petits bloup 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 bloup, etc. Donc toutes ces petites choses-là, alors le qu'on parle pipi caca crotte, ça fait rire, mais tous ces petits mots, ces petits splash, etc., ça fait rire aussi.
Bah, voilà. C'est un ensemble, finalement.
C'est un ensemble, exactement.
Sonore,
c'est un ensemble qui fait que ça fonctionne.
Bah, c'est ça, la nature, hein. C'est des sons, des bruits, des odeurs.
Et des odeurs, et effectivement, tu as raison, dans ce livre-là, il y a aussi des comparaisons qui sont faites. Parce que, voilà, hein, l'odeur à travers un livre, on l'a pas.
Oui.
Mais il y a des comparaisons qui sont faites. Et voilà, je suis sûre qu'un enfant qu'on emmène à la ferme le lendemain, après avoir lu ce livre, il est capable de redonner des informations qu'il a apprises, finalement, à travers une histoire de fiction.
Oui, c'est ça, il sera plus éveillé à toutes ces choses.
Oui,
il sera plus éduqué.
Oui.
C'est vraiment, vraiment bien. Et on parlait tout à l'heure des livres qui peuvent aussi plaire aux adultes, hein, comme L'Herbier philosophe ou d'autres romans.
Alors L'Herbier philosophe, il est lui aussi assez original, parce que forcément Les Herbiers, c'est des grands classiques, c'est les premiers livres avec les abécédaires, les imagiers que les enfants rencontrent. Mais celui-ci, comme tu le dis, c'est un herbier qui est à la fois pour les enfants et pour les adultes, et il est assez original puisque finalement se font face sur les doubles pages une représentation de la plante et en face un petit poème, un poème à visée philosophique, hein, comme le nom de l'album l'indique. Et je trouve vraiment intéressant, enfin, le monde de la nature, c'est poétique en soi, alors lui, dans un livre, lui mettre en face à face un poème, je trouve ça une idée vraiment, vraiment très intéressante. Et finalement, le poème, enfin, la fleur, la plante, elle est représentée aussi de manière énormément poétique. Ce sont des aquarelles qui sont vraiment magnifiques. Enfin, on peut finalement parler poésie, littérature et nature et science. Les deux ne sont pas incompatibles.
Oui.
Là, ce qui est intéressant aussi dans l'herbier philosophe, c'est que pour chaque plante, on donne le titre, la dénomination populaire, qui est celle connue par tous. Mais le livre n'oublie pas non plus de donner la dénomination scientifique. Donc on est là aussi finalement dans l'apprentissage de nouvelles choses. Par exemple, la fleur qu'on appelle le souci, en fait elle s'appelle le Calendula officinalis. Moi je ne savais pas. Et finalement... j'ai pris du plaisir, j'ai écouté de la poésie, j'ai lu de la poésie, j'ai vu une magnifique image. Et en même temps, j'ai appris que le nom scientifique du souci, c'était Calendula. Je trouve que pouvoir mêler tout ça, c'est extrêmement intéressant.
Oui, puis les herbiers, leur force, c'est de raconter des histoires, en fait, du savoir populaire autour des plantes.
Et moi, j'ai vraiment, avec ce livre, redécouvert les herbiers, finalement. Je peux, si tu veux, en citer un qui est vraiment, je ne sais pas, par exemple, La fleur de lune, une fleur que je ne connaissais pas, le petit texte poétique qui est mis en face à face, la pleine lune est menteuse car elle cache son autre moitié, comment la voir entière d'un seul coup d'œil. Vous êtes sur une fleur plus connue. Le bouton d'or, regarde les habits neufs de la fleur, est-elle vêtue d'or ou est-elle nue? Et ce qu'on appelle le bouton d'or, ce que tous les enfants appellent le bouton d'or, on a en bas de page son nom plus scientifique, renoncule, et aussi le nom latin.
C'est beau, ça permet d'apprendre les deux faces de la nature.
Exactement,
c'est très, très joli.
Le côté populaire, mis en face du côté plus scientifique, la poésie de la nature, de ses couleurs, de sa représentation en aquarelle, et puis la poésie de ces petits textes japonais. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment un livre à la fois pour les petits, pour les grands, pour les parents. Je trouve que tout le monde y trouvera plaisir à le regarder et à le lire. Parce que c'est aussi ça, à le regarder finalement. Un enfant qui ne sera pas en âge de comprendre ses poèmes philosophiques ou de lire le nom latin, il pourra quand même s'émerveiller devant la beauté de la plante.
Oui, c'est sûr, c'est ça. Ça passe beaucoup par le visuel, mais aussi par ces petits textes poétiques qui sont très importants. Et pour finir, tout à l'heure, tu me parlais de transposer un texte écrit à quelque chose de visuel, comme L'enfant et la rivière d'Henri Bosco, en bande dessinée. Oui. Et qu'est-ce que ça change?
Je trouvais ça intéressant. L'enfant et la rivière, c'est un livre connu. Il était au programme scolaire, je ne sais pas s'il est toujours, du collège, dans les années 80-90. C'est un livre que les enfants ont côtoyé. Les enfants qui sont devenus des adultes maintenant et qui ont peut-être oublié. Et ce livre, il est ressorti il y a 2 ans, je crois, sous la forme d'une bande dessinée. Et je trouve que ça permet de redécouvrir le livre. Et puis là, dans l'enfant de la rivière, la nature est vraiment... Et là, la rivière, en l'occurrence, et son petit monde est vraiment au cœur de l'histoire. Et la redécouvrir de manière... illustré sous forme de bande dessinée, ça donne un renouveau à l'histoire. Par moments, on a presque l'impression d'être... Enfin, moi, j'avais oublié le roman, et puis là, je le redécouvre l'histoire avec plaisir sous ce format-là. Parce que aussi, mon œil est attiré par les dessins, par la représentation de la rivière. Donc, je trouve ça assez intéressant, finalement, de pouvoir... raconter une histoire des deux manières. Quand on la lit sous forme de roman, on se fait son petit film dans sa tête. On s'imagine la rivière, ce qui est aussi extrêmement riche. Voilà, on travaille son imaginaire. Et puis l'avoir représenté par un illustrateur donne une nouvelle histoire, une nouvelle visibilité. On va faire travailler notre imaginaire d'une autre manière. Et là, L'enfant et la rivière, c'est aussi un livre final. Enfin, c'est une BD pour les ados, mais les adultes se prendront beaucoup de plaisir à la lire, d'autant plus avec leur souvenir de collégiens.
En tout cas, c'est sûr que moi, ça me donne envie de me procurer tous les livres dont tu viens de parler, parce que c'est une autre vision qu'on a plus.
La littérature jeunesse, c'est pas forcément évident d'en parler, parce que c'est une histoire. Enfin, quand on parle des albums, en tout cas. Mais ce sont aussi des illustrations, et les illustrations, il n'y a rien de mieux que de se plonger dedans.
Non, puis j'ai l'impression que les livres jeunesse, ils ont un regard à la fois naïf, mais en même temps très protecteur de la nature, et on le retrouve peu dans les romans adultes.
Oui, tout à fait. Et la nature, elle est souvent là, alors c'est pas forcément le cœur de l'histoire, mais elle est souvent là, présente malgré tout. C'est souvent le décor de l'histoire, et les illustrateurs y apportent un soin particulier. Tu parlais de dessins un peu naïfs, je pense notamment au travail que fait Fleur Bourri, qui travaille beaucoup aux crayons de couleur et aux feutres, qui sont finalement les outils des enfants. On peut se dire, mais elle fait des choses d'une extrême beauté, d'une extrême précision. Finalement, moi je peux sortir mes crayons de couleur et mes feutres, je n'arriverai jamais à ça. Je pense notamment à un livre qu'elle a sorti qui s'appelle Bonjour Printemps ou Le cœur de l'histoire. Le sujet, c'est la naissance, le bébé qui arrive. Mais cette naissance, elle est mise en parallèle avec le renouveau de l'arbre au printemps, puisque les animaux de l'histoire habitent un arbre. Au fur et à mesure que le ventre de la maman s'arrondit, l'arbre vit lui aussi son renouveau. Et c'est extrêmement dans l'histoire et dans le sens qui est intéressant, dans le sens où c'est donné, mais c'est aussi très beau dans les illustrations, c'est magnifique. Donc, comme tu le disais, ça peut paraître naïf, des petites fleurs par-ci, là, un mot par là, mais ça ne l'est pas.
Non. Tout à fait.
Donc oui, il faut se plonger dans la littérature de jeunesse, même quand on est adulte.
Ah, je suis bien d'accord. Non, mais c'est important.
Et les livres pour les enfants ne sont pas que pour les enfants. Bah, et bien souvent, quand on est lecteur adulte, on arrive à y percevoir sûrement d'autres choses, mais qui sont tout aussi intéressantes que ce que les enfants peuvent voir.
C'est sur ces jolis mots que je vous quitte et vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast Histoire Naturelle. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la barre d'infos et sur le carnet Hypothèse, le blog histoirenat.hypothèse.org. Et vous pouvez également retrouver les informations sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer, Google, Anchor.fm, etc. Et si jamais vous voulez participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail située dans la barre d'infos du podcast. À bientôt !